Ce qui devrait nous stupéfier aujourd'hui dans la décomposition de l'Algérie, le mystère que devraient ausculter les docteurs politiques, ce n'est pas tant l'affrontement qui oppose l'armée et les intégristes musulmans, ou les populations et ce qui reste du pouvoir politique, tout cela est malheureusement classique. Non, la véritable énigme, la question la plus intrigante, c'est comment, par qui et à quel titre ce pays a été gouverné depuis tant ans. Est-il possible qu'au XXe siècle, un grand pays riche et pourvu d'élites cultivées, car l'Algérie n'appartient plus ou ne devrait pas appartenir au tiers-monde, puisse tomber sous la coupe d'une farandole ininterrompue de forbans incompétents qui s'ingénient à le mettre en faillite et à le piller sans jamais avoir pour autant été mandatés dans leurs fonctions par le peuple? Et comment se fait-il que le monde entier trouve cet abus parfaitement naturel, ne s'alarme aucunement de ce hold-up et traite avec révérence pendant 3 décennies cette mafia comme si elle était légitime? J'entends déjà qu'on se réécrit comment mais le pouvoir du FLN tirait sa légitimité de la guerre d'indépendance contre la colonisation française. Ces chefs, libérateurs de leur terre natale, avaient le droit de s'assurer la relève. Cet argument est spécieux pour 2 raisons. Premièrement, des chefs issus d'une résistance peuvent en effet et doivent même prendre le pouvoir dans la période qui suit immédiatement une indépendance, mais cela n'est légitime qu'à la condition que cela soit provisoire et ne dure que le temps d'organiser des élections, de mettre sur pied une nouvelle constitution, d'élire une assemblée réellement représentative. Or, avec le FLN, ce provisoire est devenu permanent, c'est-à-dire illégal. Deuxième raison, très vite, les dictateurs qui ont fait main basse sur l'Algérie n'ont plus rien eu de commun avec les chefs historiques de la révolution algérienne. La plupart de ces chefs furent rapidement écartés, renversés, arrêtés, emprisonnés, condamnés à mort ou au camp d'internement. Plusieurs durent s'enfuir à l'étranger, où 2 d'entre eux furent d'ailleurs assassinés par des tueurs à la solde d'Alger, l'un à Madrid, l'autre à Francfort. Ahmed Ben Bella instaura dès lors, dès le début, un système totalitaire, et le fait qu'il se présente aujourd'hui comme un politicien démocratique est une sinistre imposture. Le fléau du parti unique remonte à lui. Son successeur Boumédienne, encore plus sectaire et borné, le renversa par la violence et serra encore davantage la vis totalitaire. À la mort de Boumédienne, en 1979, le nouveau président, toujours en fonction, Chadli Ben Jedid, que l'on présenta étrangement comme plus démocrate que l'antérieur, fut candidat unique et élu avec 99,5% des voix, excusez du peu. Ceaușescu n'était qu'un amateur à côté, il faisait à peine 98. Mais le pire est que cette nomenclatura infligea au pays son programme économique, nourri d'un marxisme primaire déjà totalement périmé. À cause du bagage intellectuel indigent de ses chefs, l'Algérie rata son développement. Elle régressa, malgré les atouts prodigieux de ce pays dans l'agriculture, les mines, les hydrocarbures. La charte d'Alger, votée au congrès du FLN de 1964, adopta comme doctrine officielle de la République le socialisme dit scientifique, la plus grande imbécilité du XXe siècle. J'en reviens donc à ma question initiale. Il est partout interdit aux premiers venus de confisquer une banque, une épicerie, une clinique ou un restaurant qui n'a ni titre juridique, ni compétence pour gérer. Pourquoi donc le monde actuel permet-il à une bande de truands de confisquer un peuple?
Merci Jean-François Revel.